Le reportage que vous allez écouter a été enregistré avec les moyens techniques du labo de RFI. Vous pourrez retrouver sur notre site RFI.fr ce reportage en son binaural, c'est-à-dire en trois dimensions. Pour profiter de toute la spatialisation du son, il vous suffira de l'écouter avec un casque.
RFI.
Il y avait maintenant 6 ans qu'elle était arrivée dans la plaine, accompagnée de Joseph et de Suzanne, dans cette Citroën B12 qu'ils avaient toujours. Dès la première année, elle mit en culture la moitié de la concession. Elle espérait que cette première récolte suffirait à la dédommager en grande partie des frais de construction du bungalow. Mais la marée de juillet monta à l'assaut de la plaine et noya la récolte. Croyant qu'elle n'avait été victime que d'une marée particulièrement forte, et malgré les gens de la plaine qui tentaient de l'en dissuader, l'année d'après, elle recommença. La mer monta encore. Alors elle dut se rendre à la réalité. Sa concession était incultivable. Elle était annuellement envahie par la mer. Il est vrai que la mer ne montait pas à la même hauteur chaque année. Mais elle montait toujours suffisamment pour brûler tout. Elle avait jeté ses économies de 10 ans dans les vagues du Pacifique.
C'est Pas du Vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Voilà comment Marguerite Duras décrivait l'enfer vécu avec sa mère quand elle vivait dans les années 30 dans le sud-est du Cambodge. 70 ans plus tard, le barrage contre le Pacifique a été construit. 89 km de digues et 43 km de canaux protègent plus de 10 000 hectares de terre où des milliers de familles peuvent désormais cultiver paisiblement du riz sans craindre la montée de la mer. Ce jour-là, même si c'est la saison des pluies, il fait beau dans les polders de Prenup, près de Sihanoukville. Nous attendons notre guide, Vincent David, au début de la digue entre deux rizières. David.
Bonjour, vous êtes bien arrivé?
Ben oui, et vous alors, vous êtes venu nous rejoindre en tuk-tuk?
Voilà, vous allez venir avec nous, hein, dans le même tuk-tuk, pour aller voir des personnes qu'on va interroger. Hein.
Alors, on va peut-être expliquer d'abord aux auditeurs où nous sommes là.
On est au sud-est du Cambodge, on est dans la zone qui s'appelle Prenup. Hein. Et nous sommes dans un grand polder. Polder, donc, ce sont des terres qui ont été prises sur la mer. Donc, les gens ont pu gagner des hectares de culture de riz. Hein.
Alors, ce lieu a des fondements historiques, hein, puisque depuis 1933, on fait des digues ici pour permettre à la population de cultiver. On se demande finalement pourquoi est-ce que les gens ont décidé de s'installer dans cette zone qui n'était pas faite pour être cultivée.
Alors, il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse de dire que c'était une zone, dans toute la zone autour de Sihanoukville, toute la province qui est autour de cette zone, c'était une des seules zones où on pouvait cultiver du riz, qui était en plaine. Le reste, c'était souvent sous forme de collines, ou difficile à faire des cultures de riz irriguées. Donc, on pense que ces zones-là, en plus, la terre est très fertile, hein, parce que c'est une terre qui est riche, il y a beaucoup de matière organique. Et c'est vrai, depuis 1930, à l'époque du protectorat français, donc si on peut dire la colonie, on avait choisi cette zone et commencé à faire un ensemble de digues qui évitaient à l'eau salée de rentrer à l'intérieur et d'améliorer la culture. Et aussi, on peut dire dans cette zone, c'est historique aussi, puisque a vécu une célèbre romancière du nom de Marguerite Duras, qui a écrit 2 romans qui parlent de Prenup, de la zone, de ces zones de vase, qui s'appelle Barrage contre le Pacifique, ainsi que, j'ai oublié le deuxième nom, mais c'est pas grave.
Donc là, l'idée quand même, c'est qu'on comprenne comment les agriculteurs se sont organisés ici pour cultiver le riz et comment, grâce à cette agriculture familiale, ils arrivent à vivre et à très bien vivre. Donc on va remonter dans le tuk-tuk et on va à la rencontre
D'abord, le président de l'association des usagers des polders. C'est donc une association qui regroupe l'ensemble des producteurs de riz. Et donc on peut discuter avec ce président qui donnera vraiment l'avis sur la zone et comment elle a évolué, quel est le rendement, combien de personnes y habitent, etc.
Et bien c'est parti, on remonte en tuk-tuk. Hop, Je me mets à côté de vous. Alors là, on fait un petit stop, Vincent David, parce qu'on va rencontrer justement les responsables de l'association. On va sortir du tuk-tuk. Avant de les rencontrer, on peut peut-être expliquer un peu le paysage qui est autour de nous, parce que les auditeurs n'ont pas les images. Bon, on en mettra quelques-unes sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. On est entouré de rizières, ce vert extrêmement vif, parce que là, en ce moment, le riz a été semé, hein, c'est ça, il est en train de pousser.
Il est en train de pousser, là. Il commence déjà à la floraison. Hein. Déjà, il est vert, on commence à avoir apparaître des points blancs sur les hauts des tiges, c'est le début de la fleur de riz. Hein.
Et au loin, il y a des montagnes nuageuse.
Donc au loin, on a le mont qu'on appelle Mont Bokor, qui veut dire en cambodgien la bosse du buffle, qui domine la plaine de Prenup où on est, où il y a les polders.
Je vois qu'ils nous attendent là-bas, on va peut-être aller leur dire bonjour. Bonjour Yimboy.
Ça va?
Alors, vous êtes le président des usagers ici des polders. Alors, donc, combien y a-t-il de familles qui vivent ici sur les polders de Prenup?
Environ 8000 familles qui habitent dans l'ensemble des polders de Prenup.
Et tout le monde fait de la riziculture?
Parmi les 8000 familles qui travaillent dans les polders, il y en a une partie qui a avoir le complément des budgets en travaillant ouvrière et aussi sur la partie des pêches et la culture maraîchère.
Ils sont ouvriers certainement dans les usines chinoises de textiles que l'on a croisées sur la route. Alors, quelle quantité de riz est produite ici chaque année?
Le rendement de la culture de riz avant la réhabilitation des polders, 500 kg, une tonne de riz par hectare. Après la réhabilitation, l'année dernière, on a eu la récolte de 3,5 tonnes par hectare.
Par rapport à votre organisation, donc ça fait beaucoup de tonnes de riz. Est-ce que vous êtes organisé en coopérative pour vendre tous ensemble?
Dans le passé, il n'est jamais fait la commercialisation commune du riz. Et maintenant, l'association et aussi la fédération des communautés des usagers d'eau dans le pays discutent sur la commercialisation commune du riz qui a été produit par le monde.
Alors c'est une sacrée évolution ça, parce qu'en fait dans l'histoire du Cambodge, il y a beaucoup de traumatismes sur le fait de travailler ensemble à cause de l'époque des Khmer Rouges. C'est pour ça que jusque-là, les producteurs ne se sont pas mis ensemble, ne se sont pas mis en coopérative, ce mot qui est un gros mot ici.
Oui, dans le passé, le mot coopérative, c'est le mot qui signifie vivre en commun, manger en commun et se faire tuer en commun. C'est la période Khmer Rouge. Et maintenant, on a du mal à se réunir pour discuter pour la vente en commun des produits produits par les petits producteurs.
Mais le temps passant, c'est quelque chose qui aujourd'hui est envisageable.
Maintenant, on pourra discuter la partie commercialisation en commun avec tous les membres de l'association si le prix du riz a beaucoup d'avantages que la vente individuelle.
Alors justement, le prix du riz, est-ce que les familles qui vivent ici de la riziculture en vivent bien ?
Le prix du riz maintenant il est trop bas en vendant et individuellement, donc c'est la demande de leurs membres que l'association va organiser la vente du riz collective.
Est-ce que les gens qui vivent ici de la riziculture actuellement en vivent bien? Est-ce que leurs revenus sont corrects pour permettre aux enfants d'aller à l'école, avoir accès à la santé, enfin vivre correctement globalement?
En comparant avec les populations qui sont en dehors de cette zone de production, la vie des gens du polder est mieux vivre que les populations qui habitent en dehors de cette polder.
Et ça, c'est lié à quoi? Pourquoi on vit mieux ici qu'ailleurs?
Alors, on vit bien ici parce qu'on dépense moins pour la production du riz. C'est le changement des pratiques agricoles qui consiste à directement semer sur les parcelles, de ne pas les faire les transplanter. Donc, on réduit la dépense sur les labours. Ensuite, c'est sur la voie de transport des marchandises vers le marché. Avant la réplantation des polders, tout le monde transportait par bateau. Et il faut une journée pour arriver au marché. Après la réhabilitation, la route est là et donc il peut passer seulement une demi-heure pour arriver au marché.
Pour vous, quel est le principal défi dans les années qui viennent ?
La première inquiétude pour moi, c'est la transformation de l'occupation des sols. La population ici et la pression foncière est telle qu'il peut vendre ces terrains pour devenir un terrain industriel.
C'est-à-dire que ici, dans la zone des polders, vous pouvez être victime, comme dans plein d'endroits au Cambodge, de l'accaparement des terres ?
Il y en a des compagnies privées qui viennent ici pour faire l'étude de faisabilité pour transformer ce terrain en zone hors de culture de riz, soit les zones industrielles ou d'autres zones touristiques. Et je suis en train de me battre avec les membres de l'association pour éviter le problème d'accaparement des terres par les investisseurs privés dans les zones de polders de Prénom.
Vous êtes président de l'association des usagers des polders depuis 15 ans. Je sais que vous avez beaucoup de travail, donc on va vous libérer, on va vous laisser retourner à votre bureau et on va aller rencontrer des riziculteurs. C'est vous qui les avez choisis. Pourquoi est-ce que vous nous avez conseillé d'aller voir ces gens-là ?
Pour un témoignage en direct avec le bénéficiaire pour éviter que c'est lui qui parle des blablabla au nom de l'association. Donc, vous allez rencontrer directement le bénéficiaire. Il peut vous raconter plus de détails sur la vie personnelle de ces agriculteurs des polders.
Alors, on arrête le blablabla. Merci beaucoup. Akun. Vous assurez la traduction pour ce reportage, mais en vérité, dans la vraie vie, vous travaillez sur tout ce qui est agriculture à l'Agence française de développement ici au Cambodge. Cette histoire d'expropriation, elle plane sur cette zone de Prénom, comme dans beaucoup d'endroits au Cambodge. Mais il y a quelque chose qui les protège parce que dès le départ, justement, l'Agence française de développement a mis en place un dispositif.
Le dispositif le plus draconien pour lutter contre l'accaparement des terres, c'est la titrisation foncière automatique des parcelles. Et cette titrisation foncière qui permet aux populations qui vivent dans cette zone d'avoir un titre foncier valable et qui rend presque impossible tout l'accaparement des terres dans cette zone.
Plus globalement, en dehors de la zone de Prénom, c'est un phénomène qui sévit dans beaucoup d'endroits au Cambodge aujourd'hui.
Oui, partout où les titres de propriété par les occupants, même depuis 20 ans, 30 ans, ils peuvent être mis en cause par un décret royal ou bien une décision ministérielle pour évacuer ces zones pour le développement économique. Ici, surtout, il y en a beaucoup d'expropriations forcées de la population. Et si on est lui-même qui se trouve juste à quelques kilomètres de là, on a une zone industrielle qui a été évitée de la population il y a très peu de temps.
Et ce n'est pas seulement en zone rurale, hein, puisque à Phnom Penh aussi, récemment, il y a eu un projet qui a quand même réussi à déplacer 10% de la population de la ville.
Oui, c'est à peu près 10% de la population de Phnom Penh a été expulsée de force par les autorités. Même à Phnom Penh, où la plupart des gens ont le type de propriété, ils ont arrivé à expulser ces gens pour le but un petit peu douteux sur le développement économique.
On lit des chiffres qui disent qu'il y a à peu près 600 000 Cambodgiens qui sont devenus des sans-terre à cause de l'expropriation sur 15 millions de Cambodgiens, c'est ça la réalité ?
C'est exactement ça, et a été prouvé par les rapports des ONG de défense des droits de l'homme.
Alors on va aller voir un couple de riziculteurs qui pour l'instant n'a pas été exproprié. On va leur demander d'ailleurs s'ils ont été approchés par des investisseurs. Vincent David, on y va maintenant, c'est à quelle distance ? Ils sont loin d'ici ?
On va aller en tuk-tuk parce qu'on va prendre la 10 sur laquelle on est actuellement. On va aller dans la direction de l'autre 10 qui nous ramène sur la route.
À peu près à quelques 5-6 km ?
5-6 km environ.
Allez, on continue la balade au cœur des rizières.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Cette semaine, nous sommes au Cambodge avec les riziculteurs de la région de Prenup.
Donc là, ça y est, nous sommes arrivés chez des riziculteurs, mais pas seulement, vous allez l'entendre, ils font plein de choses et d'ailleurs ça se voit autour de leur maison, il y a plein d'arbres fruitiers. On est au milieu des polders de Prenup. Autour de nous, il y a des palmiers, des arbres fruitiers, la mer juste derrière, des rizières, des canaux. Et donc nous sommes accueillis par un couple de riziculteurs, Sogban et Peke, qui ont la gentillesse de nous accueillir chez eux. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, vous êtes installé ici au début des années 90. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici ?
Les terres ici sont fertiles et donc je peux m'installer pour faire les riziculteurs. Donc je commence à débroussailler dans les années 90 et après je pratique la riziculture et ensuite voilà, ça tombe bien parce qu'il y en a la réputation des polders de Prenup.
Et vous madame, vous étiez contente de venir ici ?
Oui, je suis très content parce que dans l'ancien village, j'arrive pas à subvenir à mes besoins et j'arrive ici, j'aurai des surplus.
Alors justement, on voit que vous avez quand même une belle maison ici avec 4 chambres, vous avez 9 enfants, vous avez la télévision, l'électricité, bon grâce à un groupe électrogène, mais on sent que vous avez quand même un certain confort. Ça a toujours été comme ça ici?
Avant, on n'a pas ce confort. On est installé à petite cabane avec les 9 enfants. Ensuite, l'arrivée de la réputation des polders, notre vie, ça commence à s'améliorer. Nouvelle maison construite, nouvelle télé achetée et groupe électrogène aussi. Donc, on a maintenant tous les conforts.
Qu'est-ce qui a changé, en fait? C'était le fait que la mer ne venait plus dans les rizières et donc que vos rendements ont augmenté?
En fait, c'est quand l'eau salée ne rentre plus dans les rizières et dans les champs, c'est là que la récolte a augmenté et nous, on peut faire beaucoup de choses. Des autres abrutiers sont plantés, les enfants peuvent aller pêcher, qui peuvent avoir beaucoup de produits de la pêche et donc notre vie a changé dès ce moment-là.
Globalement, est-ce que vous avez estimé quels sont vos revenus annuels avec la riziculture, les arbres fruitiers, la pêche
Pour les arbres fruitiers, chaque année, on pourrait avoir à peu près 800 euros de revenus. Pour la riziculture qui nous rapporte 8000 euros par an. Et grâce à cette pratique d'agriculture, notre famille et l'ensemble des 9 enfants vivent côte à côte. Donc la famille est réunie et on est très heureux de cette pratique.
Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux jeunes qui rêvent de partir à la ville, qui pensent que l'agriculture c'est trop difficile ou c'est pour les vieux et que l'avenir est plutôt à la ville ?
La seule idée à passer aux jeunes, c'est-à-dire avec notre niveau d'éducation, si on va en ville, le métier convient à nous, c'est le métier ouvrier-ouvrière. Et si on reste ici, on a la méthode de culture, on a la terre, on a la mer à côté, donc on peut retirer toutes les ressources possibles pour faire vivre notre vie ici.
Chặt ơi
C'est un espace désert où rien ne pousse. Un désert salé, un lieu stérile, un endroit hors du monde. C'est un lieu infernal où l'on est condamné à survivre, piégé par son propre acharnement, que l'on ne peut quitter faute d'argent. C'est un espace au contour flou du côté de la mer. La mer est occultée, on ne la voit pas. Elle est une menace omniprésente.
Vincent David, vous avez été contrôleur des travaux qui ont eu lieu ici entre 1998 et 2007, donc pour faire en sorte que l'eau de mer ne rentre plus sur les zones des polders surélevées pour que les gens puissent cultiver le riz. Quand vous êtes arrivé en 1997, dans quel état était la digue ?
La digue était quasiment inexistante. Les ouvrages étaient plus tout utilisables. Et beaucoup de digues, les digues étaient cassées. Il y avait beaucoup d'eau salée qui remontait à travers ces cassures. On a refait un tracé de digue différent de ce qu'il y avait en essayant de se réadapter avec le tracé des premiers polders qui ont été faits dans les années 30. Donc on est reparti au plus près de la mer. Ces digues ont été faites pour éviter que si un jour il y a l'eau salée qui rentre dans l'un, il ne communique pas dans l'autre. Donc c'est aussi une sécurité par rapport au risque d'accident d'eau salée qui rentre.
Alors comme vous le disiez, la création de ces polders et des premières digues, tout ça, ça date des années 30. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une nouvelle impulsion dans les années 90 ?
D'abord pour rappeler l'histoire. Dans les années 30, on a projeté de faire une digue qui était relativement petite, puis c'était 1,50 m de large. Elle a été très utile à l'époque, c'est les protectorats qui géraient cette digue. Après l'indépendance, on a fait une nouvelle réhabilitation en élargissant la digue pour en faire une digue roulable, mais on n'a jamais retrouvé de traces de papier puisque les Khmer Rouges ont brûlé, ont détruit beaucoup des archives à l'époque. Après ces années 60, il y a eu les Khmer Rouges qui ont, eux, fait de grands travaux, ont tout chamboulé, toute la philosophie de l'époque qu'on avait fait ces travaux. Aujourd'hui, on a abandonné beaucoup de choses qu'avaient fait les Khmer Rouges, mais on reste tributaire des grands canaux qui drainent les eaux pluviales venant des collines avoisinantes.
Et donc, pourquoi il y a eu cette impulsion dans les années 90 à nouveau ?
C'est le roi Sihanouk qui avait demandé la réhabilitation des polders. En 80, 94, 95, ils voulaient absolument refaire.
Et aujourd'hui, donc, on est sur ces polders, on voit qu'il y a des familles qui y vivent plus de 10 ans après. La question, c'est dans quel état est la digue et combien de temps va-t-elle pouvoir durer ? Et pour ça, nous sommes avec le responsable de la maintenance, vous pouvez nous le présenter ?
Monsieur Yimsok, qui est le responsable de la maintenance.
Bonjour Monsieur Yimsok.
Ah, bonsoir.
Alors, expliquez-nous dans quel état est la digue aujourd'hui, digue dont dépend 8000 familles.
En bon état, entre 60 et 65% de tout l'ensemble des digues. Les 40% restants, c'est pas vraiment un très mauvais état, mais on apporte le minimum nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de ces digues.
Alors quand vous dites qu'il y a à peu près 40% qui est en moins bon état, ça veut dire quoi ? Il y a des fissures, ça s'affaisse, parce qu'ici, le sol est mou, donc la digue forcément s'enfonce petit à petit. C'est ça le problème ?
Les 30-40% dirais, ce sont les digues qui ne remplissent pas ses fonctions à 100%. Ce sont des digues qui sont envahies par les végétations, qui un petit peu s'affaissent parce que le sol est instable au-dessus. Le problème, l'association des usagers d'eau de polder n'a pas assez de fonds pour réparer de tout l'ensemble des digues.
Vincent David, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je veux ajouter qu'il y a deux problèmes, comme sont montées la maintenance. La CUP, la communauté d'usagers, a en charge un certain nombre de travaux. Les digues intermédiaires, c'est une petite digue qui sert de liaison de la route nationale à la grande digue, et les ouvrages. À la charge de l'État cambodgien, la maintenance des grandes digues, des digues fond de mer. Donc ça dépend du bon vouloir de l'État de faire cette maintenance des grandes digues. À l'époque, on avait partagé les responsabilités de chacun. Donc le travail qui concerne le remonter et la reprise de ces digues, normalement, c'est à la charge de l'État.
Et est-ce que l'État s'en préoccupe, à votre avis ?
L'État a fait quand même quelques travaux, quand même. Mais maintenant, on a un engagement. L'AFD dit que tous les années, ils vont intervenir.
Sidi Ait, l'AFD, ici, durant notre reportage, c'est vous. Donc, vous discutez actuellement avec l'État pour qu'il y ait un entretien annuel ?
Oui, l'État a promis à tous les bailleurs de fonds dans le cadre de la réhabilitation des périmètres irrigués qu'ils apportaient les fonds nécessaires pour la maintenance des périmètres qui a été réhabilité récemment. Donc, Prénup sera bénéficiaire chaque année des fonds à l'ordre de $200,000 pour maintenir la responsabilité dans le cadre de la maintenance.
Donc le barrage contre le Pacifique est sauvé.
On pourrait dire maintenant sauvé et on va voir la difficulté la suite.
Reportage réalisé par François Porcheron. Merci à Sidi Ait Mohon pour les traductions et à Kim Chanta, chauffeur, toujours de bonne humeur. Demain, nous continuerons notre voyage au Cambodge. Nous irons à la rencontre des producteurs de sucre de palme de Kampong Speu et de poivre de Kampot qui ont réussi à faire classer leur production en indication géographique protégée. Et ça a changé leur vie. À demain donc, même planète, même heure.